Les questions de Sophie. Voici Sophie Stanquet.
Mesdames, Messieurs, bienvenue aux questions de Sophie, lundi 1er décembre, midi. À l'approche des fêtes, à quel organisme donnez-vous ou donnerez-vous? En général, comment ça se passe chez vous? Est-ce que vous avez la main facile dans le portefeuille en ce qui concerne les dons pour les organismes ou vous retenez votre main parce que vous avez peur de donner? Alors, on va voir tout ça aujourd'hui. Et vous savez, ça tombe bien parce que demain, ce sera donc le mardi « Je donne ». Sur les médias sociaux et c'est une sorte de réponse sociale au Black Friday et au Cyber Monday dédié à la consommation. Alors nous, on va à contre-courant et on veut absolument donner aux organismes et on veut savoir aussi si vous donnez, vous avez 60 minutes pour le faire, c'est-à-dire pour nous écrire, pour donner, vous avez toute la vie, mais pour nous écrire 60 minutes, c'est Claudia Benoît qui viendra donner vos commentaires, c'est déjà rentré. Alors je vous parle de nos invités, ils seront nombreux parce qu'on voulait donner la parole à plusieurs organismes et c'est vraiment important pour nous. Donc on va peut-être être moins longtemps avec les gens, mais il y aura plus de visibilité pour les organismes dans cette émission spéciale aujourd'hui. On aura d'entrée de jeu Maître Guillaume Rondeau, spécialiste en vulgarisation juridique chez Éduc-Alloi. Justement, je vous parlais de la peur des fois qu'on a de donner quand on fait un don. Est-ce que ça va aux bonnes personnes? À qui donner? Qu'est-ce qu'il faut vérifier? Ça, c'est extrêmement important. On va rentrer avec lui en émission. Introduction avec lui, il sera là. Centraide, eh bien, vous la connaissez, Liliana Pereza, directrice de Centraide, sera ici à l'émission. Linda Gauthier, présidente du RAPLIC, une habituée du recrutement des activistes pour l'inclusion au Québec. Diane Mokol, directrice de la Fondation pour l'alphabétisation, sera avec nous. Également Nathalie Boyles, présidente du conseil d'administration de l'association de Spina Bifida et d'Hydrocéphalie du Québec. Et on aura également Madame Céline Arbeau, directrice générale de l'organisme Dans la rue. Et Diane Pilote. Madame Pilote est présidente du conseil d'administration de Vues et Voix. Et elle a été également lectrice et bénévole depuis 1985. Alors, c'est le début de l'émission. Guillaume Rondeau, spécialiste en vulgarisation juridique chez Éduc-Alloi, est avec nous. Bonjour, maître.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va bien, et vous?
Très bien.
Alors, justement, la question à poser, parce que vous êtes l'homme pour nous répondre, comment on fait un don, comment on choisit et à qui donner? Parce qu'il y a la peur qui s'installe et c'est vrai, on entend des histoires d'horreur, des gens qui se font passer par des organismes, mais comment et à qui donner quand vient le temps de donner?
Bon, voilà. La bonne nouvelle, c'est que oui, il y a des précautions à prendre. Il y a certaines vérifications qu'on peut faire pour s'assurer, là, de, ou du moins de prendre vraiment des bonnes mesures pour donner de l'argent à un organisme qui va pouvoir s'en servir de la bonne manière. Donc, premier élément, ça, vous allez revenir par la suite. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais évidemment, quand on fait un don, c'est de choisir un organisme dont la mission va nous inspirer. Donc, la mission va nous intéresser, va nous tenir à cœur. Donc, ça,
c'est le principe
de base d'un don. Et voilà. Maintenant, si on va d'un côté un petit peu plus technique, en tant que juriste, donc je vais faire part de ces éléments-là.
C'est important.
Alors, au-delà, oui, des préférences personnelles que vous pouvez avoir, l'important, le principal élément, je dirais, c'est de vérifier si l'organisme est un organisme de bienfaisance enregistré. Donc, un organisme de bienfaisance enregistré, c'est un organisme sans but lucratif, donc un OSBL, qui s'est adressé à l'Agence du revenu du Canada pour obtenir son enregistrement qu'organisme de bienfaisance.
Donc, là, une OBE.
Oui, on peut parler d'organisme de bienfaisance.
Ça veut dire que ça ne suffit pas que ce soit OSBL, il faut que ça soit une OBE.
Et voilà. Au fond, l'OBE, c'est comme une version augmentée, si on veut, de l'OSBL. C'est-à-dire que l'OSBL va faire une demande ça, à l'Agence du revenu du Canada. Et la demande, il faut répondre à des critères qui sont très stricts. Donc, il y a des règles vraiment strictes à respecter pour devenir organisme de bienfaisance, donc pour que notre demande soit acceptée par l'Agence du revenu du Canada. Et le type de règles qu'on va devoir respecter, évidemment, évidemment, il va falloir que l'organisme ait une mission de bienfaisance qui est déjà bien encadrée par la loi, mais également des règles qui vont concerner, par exemple, les dépenses annuelles de l'organisme, ne serait-ce que pour sa mission de bienfaisance. Il y a des règles sur les activités politiques, sur les activités commerciales qui sont interdites, sur les activités sociales. Mm-hmm. Donc, une batterie de règles qui doit être respectée. Et si l'organisme est en mesure de faire cette preuve-là auprès de l'Agence du revenu du Canada, elle va pouvoir obtenir son enregistrement à titre d'OBE.
Mm-hmm. Alors ça, comme simple citoyenne,
oui.
Moi, je regarde où, si je veux vérifier, parce qu'il y a un organisme qui me plaît,
oui.
Et vraiment sa mission me plaît, mais je veux savoir si c'est d'abord un vrai organisme, mais si je donne à quelqu'un de sérieux, je vais où pour vérifier?
Voilà. Il y a un outil qui a été mis en place pour ça sur le site web de l'Agence du revenu du Canada. Je voudrais le plus simple, c'est de passer par un moteur de recherche comme Google et de rechercher Agence du revenu du Canada. Autrement, mm-hmm. l'adresse est un petit peu plus compliquée, c'est pour ça que je vous dis ça, c'est www.cra.arc.gc.ca. Donc, pour ça, je vous dis d'aller sur les moteurs de recherche, aller sur Agence du revenu du Canada. Et là, il va y avoir un onglet sur la page d'accueil du site web qui s'appelle Organisme de bienfaisance et dons.
Mm-hmm.
Et si vous cliquez sur cet onglet-là, vous allez pouvoir utiliser l'outil qui s'appelle Recherche d'organisme de bienfaisance.
D'accord.
Et là, soit avec le nom de l'organisme ou encore avec son numéro d'enregistrement, vous allez pouvoir vérifier si oui ou non l'organisme existe.
Mm-hmm.
Mais vous allez également pouvoir obtenir des informations sur cet organisme-là.
OK. Alors, donc, ça, c'est la première chose à faire. Là, j'ai trouvé la seconde. Finalement, j'ai trouvé mon organisme de tête et de cœur. Je regarde si, via l'Agence du revenu du Canada, si c'est un vrai organisme. Et
oui.
ensuite, là, je suis rendue à mettre ma main dans ma poche, là.
Oui, effectivement.
Alors, est-ce que en ligne, on est correct? Est-ce qu'il y a des choses à vérifier? Est-ce que par chèque, en ligne, qu'est-ce qui est mieux?
Il y a différents moyens de procéder, donc il n'y a pas nécessairement un moyen qui est meilleur que les autres. Le seul peut-être qui est plus risqué, c'est si on vous demande de payer en espèces, donc payer au comptant, par exemple, envoyer de l'argent dans une lettre, par exemple, ça laisse très peu de traces et je vous dirais que c'est assez louche. Donc normalement, les organismes de bienfaisance vont vraiment y aller d'une manière beaucoup plus sécuritaire et donc les deux moyens les plus fréquents, ça va être soit par chèque et dans ce cas-là, assurez-vous de faire votre chèque vraiment au nom de l'organisme mm-hmm. et non au nom d'un représentant de l'organisme, donc c'est important de faire le chèque au nom de l'organisme,
mm-hmm.
ou autrement, c'est possible aussi pour les organismes qui ont peut-être un petit peu plus de moyens ou qui vont utiliser des plateformes sécurisées en ligne. Et donc là, c'est vous assurer que c'est une plateforme qui est fiable. Donc, les trucs usuels là, sur les sites qui vont utiliser des transferts d'argent, donc le fameux HTTPS, donc le petit S qui est un gage de sécurité. Il y a également dans l'adresse web en haut, selon la plateforme qu'ils vont utiliser, il va avoir un petit symbole soit de cadenas ou une clé. Et donc, si le cadenas est fermé ou encore si la clé est complète, donc elle n'est pas brisée, ce sont habituellement des sites donc de transactions qui sont sécuritaires.
Alors, quand il y a des gens qui viennent cogner à la porte, parce que ça arrive souvent,
oui.
Qu'est-ce qu'on a comme moyen de vérifier si ce n'est pas des fraudeurs? Parce que j'ai entendu une histoire d'horreur avec Dr Julien, qu'il y a des gens qui se font passer pour des personnes qui travaillent pour le Dr Julien. Comment on fait pour vérifier? Ils font une fausse carte. Est-ce qu'il y a un numéro? Parce que là, on les a là devant nous. Là.
Oui, effectivement. Puis il y a beaucoup d'histoires comme ça. Il y a plusieurs dizaines de milliers d'organismes de bienfaisance au Canada et donc le potentiel de fraude est très grand. Et il y a des organismes ou des fraudeurs qui tentent de se faire passer pour l'un de ces organismes-là qui est plus connu, par exemple, qui vont utiliser un terme très similaire. Et donc là, ce que vous pouvez faire, évidemment, c'est demander le nom exact de l'organisme en question mm-hmm. et surtout son numéro d'enregistrement. Donc là, ils vont être obligés de vous donner le numéro d'enregistrement. S'ils ne vous en donnent pas ou s'ils refusent, encore là, c'est très louche. Et donc, une fois que vous avez le numéro d'enregistrement, vous retournez sur le site web de l'Agence du revenu avec l'outil de recherche qu'on a parlé tout à l'heure pour trouver les organismes de bienfaisance.
Mm-hmm.
Et là, non seulement vous allez voir si l'organisme existe, mais vous allez également voir à des informations que l'organisme doit transmettre à chaque année à l'Agence du revenu du Canada, donc ce qu'on appelle la déclaration annuelle de l'organisme de bienfaisance. Et là, vous allez pouvoir vérifier quels sont les revenus de l'organisme, quelles sont les dépenses, notamment c'est quoi l'argent qui est mis pour les frais de gestion et d'administration de l'organisme.
Okay.
Vous pouvez voir les rémunérations des employés, type d'activité. Donc, si l'organisme existe et vous le retrouvez sur le moteur de recherche de l'Agence du revenu du Canada, vous allez voir ces détails-là et au moins vous savez que c'est un organisme qui existe véritablement.
Mmh. Un indice, si la personne ne veut pas nous donner de reçu, j'imagine?
Oui, par contre, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'un organisme de bienfaisance n'est pas obligé de vous donner un reçu pour fin d'impôt.
Ah
ce
bon?
Qui arrive souvent même, c'est que quand c'est des dons qui sont de plus petits montants, ça devient un petit peu trop lourd du côté administratif pour l'organisme de remettre des reçus, par exemple, pour un montant de 10 $
Mm-hmm.
Donc, c'est possible que l'organisme vous dise, ben nous, en bas de 50 $ on ne donne pas de reçu.
Okay.
Normalement, ça devrait être précisé, par exemple, sur le site web. Mais la plupart du temps, bon, c'est un des avantages de devenir un organisme de bienfaisance, c'est de pouvoir justement redonner des reçus officiels aux gens. Et donc, si on refuse complètement de vous en donner, ou du moins, on vous informe même pas, exemple, qu'il y a un minimum de 10 ou 20 $ par exemple, c'est effectivement louche.
Alors, en terminant, il faut se méfier de quoi pendant la période des fêtes? Là, en ce moment, là, les gens y vont, là, ils vont. D'ailleurs, il y a des besoins tout le temps, mais je veux dire, faut se méfier de quoi au niveau du don?
Ce qu'il faut faire attention, faire attention aux organismes qui vont vous promettre, par exemple, des crédits d'impôt qui vont être plus élevés que le don lui-même. Donc, on sait qu'habituellement, le crédit d'impôt va être aux alentours de 15 à 30 % là, selon la valeur du don et le palier de gouvernement. Donc, si on vous dit que ça va être 100 % du don qui va être que vous allez recevoir en crédit d'impôt,
c'est louche.
C'est de l'arnaque. Ouais. Si on vous pose des questions qui sont trop personnelles, donc vraiment, on veut connaître vraiment vos détails, adresse, vos intérêts, votre travail, tout ça, encore une fois, c'est probablement des fraudeurs. Si on vous demande de faire un don vraiment sous pression, donc on vous pousse pour faire un don rapidement, ou on fait appel à vos émotions vraiment d'une manière exagérée, encore une fois, c'est louche. Et autre petit indice, regardez, si on vous contacte par téléphone, le numéro de téléphone, si par exemple c'est un numéro qui est un peu particulier, là, exemple 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0, ça va être un organisme ou des fraudeurs qui peuvent utiliser donc des moyens pour cacher leur numéro de téléphone, cacher leurs données.
Okay.
Donc ça déjà, c'est un bon indice, ça n'existe pas. Et autrement, poser des questions, visiter leur site web. Si jamais vous avez vraiment des doutes sur un organisme qui vous a appelé, contactez le Centre antifraude du Canada. Donc, vous pouvez déposer une plainte là-dessus. Vous allez savoir s'il y a d'autres gens qui ont déposé une plainte sur l'organisme en question.
D'accord.
Et donc, il y a plusieurs moyens. Et dernier petit détail, j'aimerais donner. Le site web de l'Agence du revenu du Canada est peut-être un petit peu plus pesant, peut-être un petit peu plus difficile à comprendre. Les outils ne sont pas nécessairement simples.
Mm-hmm.
Et donc, il y a l'organisme, qui est un organisme de bienfaisance, qui s'appelle Imagine Canada, qui a créé le portail Don Action.
Alors, donc ça, c'est plus facile à comprendre.
C'est beaucoup plus facile. Ils prennent les données qu'il y a sur le site de l'ARC. Ils vous illustrent ça d'une façon plus simple. Et vous pouvez avoir également des informations supplémentaires que les organismes acceptent de donner là-dessus.
Alors, on va donner les renseignements sur notre site à nous, à CanalM. Merci beaucoup, M. Rondeau.
Ça me fait plaisir.
Mon plaisir.
Au revoir.
Au revoir. Alors, ça fait toujours plaisir de vous lire, mesdames, messieurs, vous gênez pas, soit sur notre Facebook ou CanalM, pendant l'émission, bien sûr, parce qu'après, la semaine prochaine, c'est évidemment un autre sujet. Il y a Sarah qui nous dit, bon, on posait la question à quel organisme vous donnez. Sarah nous dit qu'elle donne donc à Culpa chez nous. Et tous les beaux livres, jouets de mon fils vont au CPE, donc parce que les CPE, elle met en déficit, c'est ce qu'elle écrit. Siok Narf dit qu'il donne aux amputés de guerre, ainsi que quelques journaux indépendants, entre autres. Et puis Serge Ouellette nous parle de la Croix-Rouge. Alors, vous pouvez nous écrire. Claudia Benoît est là. On va avec notre prochaine invitée. Elle est en ligne. Elle est très occupée. Elle a beaucoup, beaucoup de gens qui comptent sur elle. On est très, très, très heureuse de la recevoir au studio via le téléphone. Lili Ana Peressa, directrice de Centraide, est là. Bonjour, Madame Peressa.
Bonjour, Madame Franquet. Comment allez-vous?
Ça va et vous?
Très bien, merci.
Alors, quand je disais que vous êtes très occupée, parce que vous occupez de plusieurs organismes, comment ça fonctionne? Vous en avez combien? Et en ce moment, quels sont vos besoins?
Alors, Centraide mène une campagne de collecte de fonds actuellement, dont l'objectif est de 57 millions. Et ces argents-là sont vraiment investis de façon très responsable dans 362 organismes et projets, initiatives, dont une trentaine qui sont directement axés sur les besoins que des personnes handicapées, qui ont une déficience intellectuelle, ont.
D'accord. Alors, comme ex-éco qui fait partie de... Vous avez tous ces organismes-là. Si quelqu'un nous écoute en ce moment et se demande comment ça fonctionne avec mon don, j'ai envie de donner à un des organismes, pas parrainé, mais protégé, mais vraiment soutenu par Centraide. Comment je fais? Moi, j'écoute l'émission, puis je veux aider Centraide. Comment je fais? Et où va mon don? Et comment ça se passe?
Alors, la façon que ça se passe, c'est que nous avons un groupe de bénévoles qui nous accompagnent parce qu'on regarde quartier par quartier quels sont les besoins. Donc, dans un quartier, par exemple, il va y avoir des enjeux autour de la sécurité alimentaire ou bien il y a des personnes qui ont des problèmes au niveau d'un handicap physique. On va s'assurer que dans ce quartier-là, l'ensemble des besoins soit bien répondu par une approche globale et intégrée. Alors, on le sait, une personne qui, quelquefois, a un enjeu particulier, ben, il a aussi un enjeu de logement, il a un enjeu de sécurité alimentaire. Donc, on s'assure que tous ces besoins-là soient couverts, quartier par quartier, avec ces bénévoles qui nous aident à définir et à identifier les organismes qui travaillent le mieux avec les besoins en fonction des personnes qui y sont et aussi en fonction de s'assurer que les organismes soient responsables, qu'ils utilisent bien cet argent-là et qu'elle soit bien investie dans les besoins de la communauté.
Alors, un organisme qui aurait des besoins au niveau soit de la popote ou autre chose fera appel à vous. Et moi, comme citoyenne, j'entends parler que dans mon quartier, justement, les banques alimentaires sont vides. Comment je peux aider? De quelle manière? En apportant des dons en argent, en apportant des denrées? Comment ça fonctionne avec Centraide?
Alors, Centraide, nous sommes un collecteur d'argent, sonnant et trébuchant. Alors, le don peut être fait à sur notre site Internet le plus facilement possible. C'est centraide-mtl.org. Et nous, par exemple, nous sommes un des plus grands donateurs en termes de sécurité alimentaire. Alors, par exemple, Moisson Montréal, Moisson Rive-Sud et Moisson Laval sont des organismes qui reçoivent de l'argent de Centraide. Parce que les moissons vont récolter des denrées, mais ils récoltent peu de fonds. Alors, nous, on est là pour leur donner les sous pour qu'ils puissent distribuer ces denrées-là, pour qu'ils puissent travailler. Alors, nous sommes très complémentaires dans notre mission.
Alors, est-ce que moi, par exemple, je prends toujours la citoyenne du quartier qui, justement, la banque alimentaire est vide et un organisme tel, j'ai envie vraiment, c'est mon quartier, je le vois, est-ce que je peux carrément pointer mon don? On peut dire, bon, je veux les petites sœurs italiennes, par exemple, encourager les petites sœurs italiennes, je peux carrément aller Centraide et dire, voilà, moi, je veux encourager cet organisme?
Pour l'instant, Centraide se concentre sur Laval, Montréal et Rive-Sud. Donc,
parfait.
Lorsqu'une personne fait une contribution, son don va aller dans l'ensemble de ce réseau-là d'organismes. Par contre, si quelqu'un veut identifier une autre région que Montréal-Laval et Rive-Sud, il y a 18 centraines à travers le Québec. Donc, l'ensemble du territoire du Québec est couvert par les centraines.
Alors, je sais que vous fonctionnez avec le fameux thermomètre. Comment ça fonctionne? Est-ce que par rapport aux autres années, vous êtes en santé financière, vous êtes plus bas? Le thermomètre, il est rendu où? Le 1er décembre, au moment où on se parle?
Alors, notre campagne va se clore le 14 janvier. Donc, le thermomètre, on l'utilise plus vraiment, mais on a un pifomètre, je vais dire ça comme ça, où est-ce qu'on a fait nos projections et... À ce jour, on a un retard d'1,5 million de dollars par rapport aux résultats de l'année dernière. Donc, ce retard-là, il est significatif et il affecte vraiment plusieurs personnes parce que c'est une personne sur six à travers le Grand Montréal que les organismes que Centraide appuie rejoignent. Alors, si on a moins d'argent, malheureusement, on ne peut pas l'inventer, donc on ne peut pas le distribuer, ces fonds-là, qui sont importants pour tellement d'organisations et tellement de personnes.
Alors justement, on est là pour ça, donner exactement votre adresse pour qu'on puisse faire des dons, pour que les gens puissent donner. Madame Peressa, en terminant.
Tout à fait. Centraide-mtl.org. La meilleure façon de s'assurer que chaque argent est investi dans notre communauté auprès de ceux qui en ont le plus besoin.
Merci, Madame Peressa.
Bonne fin de journée.
Vous aussi, au revoir.
Au revoir.
Mesdames, Messieurs, je crois que j'aurais donné quand même ce titre à notre émission aujourd'hui, mais c'est inspiré d'un tweet, très bien écrit d'ailleurs, Sarah, qui nous dit, bon, à qui elle donne, elle dit, bref, à des organisations qui donnent du pouvoir à ceux qui en ont pas. Bravo. Alors, elle a mis, évidemment, le 99media.org, elle a mis des liens, Iris Recherche et Culpa chez nous, CPE. Alors ça, c'est Sarah qui nous écrit. Ensuite, Marie-Rose Martel dit « Nous aidons une famille qui éprouve des difficultés avec le reste. On paie des thérapies pour nos enfants différents. » Alors donc, voilà, vous êtes nombreux à nous écrire. On aime beaucoup vous lire. On poursuit notre émission avec Linda Gauthier, présidente du RAPLIC, Regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec. Bonjour Linda Gauthier.
Bonjour Sophie.
Alors, j'ai entendu, et moi j'étais dans une autre organisation ce soir-là, qu'il y a eu justement une levée de fonds annuelle pour l'organisme. Comment ça s'est passé?
Ça s'est super bien passé. Ça s'est fait au Resto Plateau, qui est un restaurant d'insertion sociale. Et vraiment, on était entourés d'une brochette de politiciens de tous les paliers gouvernementaux. Et on avait quand même une centaine de personnes. On voulait pas en prendre plus non plus pour la capacité de la salle, mm-hmm. pour être en mesure de circuler, parce qu'il y avait plusieurs personnes en fauteuil roulant. Et c'était quand même au-delà de nos espérances. Ça a rapporté peut-être pas autant qu'on aurait souhaité, parce qu'on a un grand cœur et puis qu'on a étendu, disons, la journée de pré-vente, qui était à un prix un petit peu inférieur. On l'a étendu plus de 24 heures. Fait que c'est pour ça qu'on a fait moins de bénéfices, mais quand même, on est capable de faire un bon bout avec ça.
Combien, Linda Gauthier, ça a rapporté cette soirée-là?
3 506 $ ou quelque chose comme ça.
Ce qui n'est pas beaucoup.
C'est pas beaucoup, mais croyez-le ou non, on est capable de faire un bon 4 mois avec ça, nous.
OK. Parce qu'il faut le dire qu'au niveau des subventions, le RAPLIC, c'est pas évident, là.
C'est loin d'être évident. Et avec les coupures qui perdurent et qui continuent, et plus il y en a, on n'en aura probablement jamais. Puis en quelque part, ça devient pratiquement la fierté du RAPLIC de ne pas être subventionné. Mmh. Parce qu'on trouve que des fois, les subventions amènent, j'oserais dire, la corruption, Sophie.
La corruption ou la redovance? On redoit, on se sent redevable?
Ben oui, finalement, il y a peut-être un peu de ça, ou il y a le fait aussi, écoutez, bon, moi, je dirais peut-être pas la corruption, mais ça nuit énormément, finalement, au milieu associatif, parce que si on est bâillonné, si on peut pas parler, si on peut pas dénoncer des vraies choses, ben ça nuit énormément à l'ensemble du milieu, à l'ensemble des personnes en situation de handicap. Alors finalement, c'est mauvais.
Parce que il y a quand même beaucoup, beaucoup de besoins. On s'en parle souvent. On est toutes les deux des révoltées de nature, mais des révoltées qui bougent. Comment vous faites au jour le jour? Parce que ces gens-là ont besoin d'avoir une voix, être servis comme il faut, avec respect, et les besoins sont immenses, serait-ce que dans le transport, on en a parlé la semaine passée. Donc, comment vous faites avec peu d'argent?
Ben avec peu d'argent, heureusement qu'on a quand même des gens qui sont passionnés dans notre équipe et qui font en sorte qu'on n'a pas peur de mettre, ben écoutez, moi la semaine dernière, là, j'ai compilé 84 heures au rappli. Alors, c'est énorme, mais je veux dire, c'est une passion, c'est comment dire non à quelqu'un qui nous appelle à 11 heures le soir que son mari est en train de la tuer, puis elle a besoin d'une maison d'hébergement accessible pour une femme en fauteuil? On peut pas dire non à ça, là.
Non.
Fait que c'est... écoutez, c'est peut-être une drogue, je sais pas, mais en tout cas... Et les autres personnes sur mon CA, je dois dire que on est de la même race, là. Fait que fort heureusement, eux aussi donnent de leur temps inconditionnellement. Et c'est ce qui fait que le RAPLIC, après 5 ans, a peut-être accompli plus en si peu de temps que bien d'autres organismes en 30 ans. Là. Mm-hmm. Fait que je me pète un peu les bretelles aujourd'hui, mais c'est bien certain que, écoutez, on a toujours besoin de sous, parce que c'est ce qui nous permet de faire des actions militantes, et bien souvent, ça dépasse un petit peu notre cadre à nous, fait qu'on a besoin d'un conseiller juridique, d'un procureur pour des fois quelques heures pour nous aider à parfaire un dossier qui est plus corsé. Là.
Il ne serait-ce qu'avoir du personnel. Est-ce que vous êtes la seule? Il y a combien de personnes? Parce que 80 heures, ça ne doit pas avoir beaucoup de monde là,
non,
dans le bureau.
Non, effectivement. Ben, on a des bénévoles quand même qui sont très... très dévoué, je dirais. Et écoutez, mon Dieu, je les compte pas parce que c'est dur à dire, c'est de façon ponctuelle. Mm-hmm. Moi, c'est à peu près steady que c'est entre 75 et 80 heures par semaine. Et sur notre CA, c'est rare que les gens vont mettre en bas de 20 à 25 heures par semaine. Puis c'est des gens qui travaillent là, à temps plein. Là.
OK. Alors là, on arrive à la question la plus importante de l'émission aujourd'hui. Puis moi, c'est la seule fois, mesdames, messieurs, que je vais faire des plugs, comme on dit en mauvais français. C'est la seule fois aujourd'hui où je vais répéter puis répéter parce que je veux que vous donniez. Et c'est le temps, Linda. Donc, si quelqu'un nous écoute aujourd'hui qui a envie d'aider, le rappeler, qu'est-ce que cette personne peut faire?
Bien, en nous téléphonant, soit au 514-656 1664 ou en nous écrivant à info@raplic, R-A-P comme Pierre, L-I-Q comme Québec, .org. Et écoutez, on va leur être, mon Dieu, on va avoir de la gratitude pour ces gens-là pour le restant de nos jours parce que ça va nous aider à aider des familles qui ont des personnes en situation de handicap ou des personnes en situation d'handicap elles-mêmes, finalement, qui n'ont pas les moyens de se payer des avocats, parce qu'on a quand même tous des études en droit, et puis c'est ce qui nous permet de travailler avec les chartes des droits et libertés.
Ouais. Et ça, puis ça va vite, hein, l'avocat, le compteur, là, quand ça commence, là, ça coûte cher, ça, là.
J'aurais dû avoir cette profession-là, mais en tout cas, dans une autre vie, peut-être.
Bon, on a trop besoin de vous, Linda Gauthier. Merci beaucoup.
Merci, Sophie. Merci. Bonne journée.
Merci.
Les questions de Sophie avec Sophie Stanquet.
Mesdames, messieurs, vous êtes nombreux à nous écrire. On aime ça aujourd'hui. Ça veut dire que ça vous parle, notre question, hein, à l'approche des fêtes, à quel organisme vous allez donner ou vous donnez en ce moment. Alors, il y a Laurent Morissette qui nous écrit « Je donne à ma famille activiste, le rappelique, et je donne pour nos droits et notre vie. » Alors, vous voyez que c'est utile et c'est touchant. Touchant ce courrier-là. On poursuit avec Diane Mockel, elle est directrice de la Fondation pour l'alphabétisation. Bonjour, Madame Mockel. Vous êtes là?
Je vais très bien, je vous remercie vous-même.
Oui, ça va très bien. Merci. Alors, je vais vous demander de vous présenter, de présenter votre organisme et me donner aussi le chiffre parce que je ne veux pas le donner moi, je le connais très bien et c'est fou, là, quand les gens entendent le chiffre, ils sont estomaqués. Alors, donnez-nous le chiffre des gens qui ne savent pas bien lire et écrire. Je veux que ça vous appartienne à vous.
D'accord. Alors, je vais d'abord répondre à la première partie de votre question.
Oui, tout à fait.
La Fondation pour l'alphabétisation a été mise sur pied en 1989. On était à l'aube de l'année internationale de l'alphabétisation qui a eu lieu en 1990. Et dès le départ, nous savions à ce moment-là eh bien que les modes de calcul des statistiques relatives à l'analphabétisme étaient moins développés que ce qu'elles sont désormais. Nous savions déjà que l'analphabétisme au Québec était un problème majeur, si bien que rapidement, la Fondation a mis sur pied une ligne d'aide et de référence qui s'appelle Info Alpha, qui dessert l'ensemble des adultes du Québec et qui leur permettait de nous appeler et nous les redirigions vers des organismes de leur région les plus susceptibles de répondre à leurs besoins. Mmh. Et rapidement, c'est fait sentir la nécessité de d'intervenir en amont. Lorsque la personne est rendue à l'âge adulte et qu'elle est analphabète, peut-être s'il y avait eu une intervention dans son enfance, qu'on aurait pu réduire les risques. Si bien que depuis, c'est la 16e année désormais, nous avons le programme La lecture en cadeau, dont je vous reparlerai tout à l'heure.
Oui, au Salon du livre, La lecture en cadeau.
Pardon?
La lecture en cadeau, entre autres au Salon du livre.
Hein? Entre autres au Salon du livre, mais partout à travers le Québec. Je vous en fais un petit point tout à l'heure.
Oui, tout à fait. Alors, je vous laisse aller.
Alors, les dernières statistiques qui sont sorties en 2013, donc à l'automne 2013, nous révèlent des chiffres qui sont assez estomacants, je dirais. Nous en sommes désormais au Québec à 1 million d'adultes de 15 à 65 ans, de 16 à 65 ans, qui sont tout à fait analphabètes.
Incroyable.
C'est-à-dire qu'ils ne lisent pas, ou tellement peu en fait, ce n'est pas de la lecture, c'est du décodage. Il y a des gens qui savent un peu décoder, mais bref, lorsque la lecture ne produit aucun sens, ce n'est pas de la lecture.
Alors, 1 million, c'est
alors,
ça?
Alors, 1 million
c'est
d'adultes.
Quelque chose.
Et on étend ça de façon beaucoup plus large aussi aux adultes du même âge, des mêmes catégories d'âge, qui ont d'énormes difficultés à lire et à écrire, qui ont de grandes difficultés à lire et à écrire. Et lorsqu'on fait un combiné de l'ensemble de ces adultes-là, et y compris ceux qui sont complètement analphabètes, on arrive à 49 % de notre population qui éprouvent des difficultés importantes de lecture et d'écriture.
C'est énorme.
Alors, c'est énorme. C'est énorme. Les enjeux sont tellement importants. On sait que le fait de savoir lire et écrire, c'est une compétence qui se retrouve aux confins, je dirais, d'un ensemble de problématiques sociales qui sont d'abord, économiques et sociales, qui sont d'abord l'accès au travail, qui sont non seulement l'accès au travail, parce qu'un grand nombre de ces adultes-là travaillent effectivement, mais lorsqu'il est question de mobilité dans l'entreprise, lorsqu'il est question de changer de travail, lorsqu'il est question d'obtenir une formation parce que l'entreprise, pour une raison ou une autre, modifie ses façons de faire, c'est là que le défi se pose.
Alors, comment vous faites, justement, parce que là, vous avez les chiffres, et je tenais à ce que ça soit vous, moi, je les avais, et je les dis souvent autour de moi, le 1 million. Comment vous faites pour pallier à tout ça avec votre organisme? Vos besoins sont immenses. Comment on peut, maintenant, vous aider financièrement? Comment on peut faire?
Alors, d'abord, la Fondation, je vais vous parler aussi de notre programme La lecture en cadeau, qui est en quelque sorte notre programme phare.
Oui, tout à fait.
Depuis donc 16 ans, c'est la 16e édition cette année. La Fondation pour l'alphabétisation a mis en place le programme La lecture en cadeau. Qu'est-ce que c'est que La lecture en cadeau? C'est un programme qui, pendant les mois de novembre et décembre, sollicite toute la population du Québec pour qu'ils achètent un livre neuf pour un enfant de 0 à 12 ans vivant en milieu défavorisé. Et depuis quelques années, de façon plus importante, on apporte une insistance aux enfants de 0 à 5 ans de faire le don d'un livre pour un enfant entre 0 et 12 ans, et préférablement de 0 à 5 ans. Ces livres-là sont annuellement redistribués à travers tout le Québec. Bien sûr, un livre qui est acheté par un donateur de la Côte-Nord retournera sur la Côte-Nord, et il en va de même pour l'ensemble des régions du Québec. Les livres qui sont en provenance d'une région retournent dans cette région-là et retournent dans les milieux les plus défavorisés de chacune de ces régions-là.
Alors, c'est la façon dont on peut faire. Pouvez-vous me donner les coordonnées en terminant, parce que le temps nous fait la guerre, comme on dit.
Déjà, le temps nous fait déjà la guerre. Alors, sur le site si vous allez sur Internet, donc lalectureencadeau.org, et sur ce site-là, vous trouverez tous les endroits au Québec, librairies, bibliothèques et autres initiatives dans lesquelles des collectes de livres sont organisées jusqu'à la fin décembre.
Merci beaucoup, Mme McCall.
Ça m'a fait plaisir. Et n'oubliez pas, la Fondation vit des dons du public, si bien que si vous souhaitez nous encourager à développer nos programmes, je vous invite à aller sur le site fondationalphabétisation.org et de faire un don.
Merci beaucoup.
Merci, Mme Stanquet. Au revoir.
Au revoir. On va tout de suite parler à Nathalie Boels, elle est présidente du conseil d'administration de l'association de spina bifida et d'hydrocéphalie du Québec. Bonjour Madame Boels.
Bonjour.
Racontez-nous, qu'est-ce que fait votre organisme?
Notre organisme a comme volet principal d'informer la population sur le spina bifida et l'hydrocéphalie. Avec ça aussi, informer la population sur l'importance de prendre de l'acide folique pour prévenir le spina bifida. Puis on a un volet aussi, évidemment, par rapport à nos membres et toute personne qui vit avec le spina bifida et l'hydrocéphalie, qu'ils soient membres ou non, mais de les soutenir, de répondre à leurs questions, éventuellement de les mettre en contact avec des membres, et puis aussi tout le volet auprès des professionnels de la santé ou toute personne qui aurait à rencontrer ou prendre en charge des personnes qui vivent avec le spina bifida et l'hydrocéphalie pour leur expliquer ce que sont ces deux conditions-là et puis les conséquences sur la vie des personnes pour mieux les aider à mieux comprendre ces conditions-là, puis à mieux aider les personnes qui viennent les voir.
Alors justement, expliquez-nous en quelques mots les deux maladies, qu'est-ce que c'est au juste, qui l'a, quel âge on a et comment ça se déclare, le spina bifida et l'hydrocéphalie.
Le spina bifida, c'est une malformation congénitale de la colonne vertébrale. Donc c'est congénital, c'est dès la naissance, dans le fond. C'est durant la grossesse que tout se joue. Les conséquences sont aussi bien moteurs que peuvent toucher la vessie le fonctionnement des intestins. Mais c'est vraiment variable d'une personne à l'autre. Y a des gens qui seront en fauteuil roulant toute leur vie. Il y a des personnes qui vont marcher toute leur vie. Il y a des personnes qui vont commencer à marcher avec difficulté, avec l'aide d'orthèse ou de béquille, qui avec le temps vont être en fauteuil roulant. Donc il y a vraiment tous les portraits. L'hydrocéphalie, c'est un excès de liquide dans la tête. Tout le monde fabrique du liquide qui s'absorbe automatiquement. Chez les personnes qui ont l'hydrocéphalie, ce liquide-là reste bloqué dans le cerveau et ça entraîne des dommages au cerveau qui se répercutent sur différentes fonctions physiques. Mais c'est plus aussi au niveau des troubles d'apprentissage qu'on va voir les conséquences de l'hydrocéphalie. Ça peut amener des problèmes de vision aussi. Ça, c'est aussi bien congénital que ça peut arriver n'importe quand durant la vie de la personne, après, par exemple, une tumeur au cerveau, un traumatisme crânien, une méningite. Donc, l'hydrocéphalie, contrairement au spina bifida, peut être acquise durant la vie.
Est-ce qu'on détecte ces maladies assez rapidement? Est-ce qu'on fait assez d'informations? Est-ce qu'on sait tout de suite ce que c'est ou ça prend du temps?
Pour le spina bifida, ça va dépendre du type de spina bifida parce qu'il y a trois types. Il y a un type qui s'appelle occulta que les gens peuvent découvrir à 30 ou 40 ans seulement. Le spina bifida myélo-méningocèle, qui est le cas le plus grave. Celui-là, ça fait vraiment, quand l'enfant naît, ça fait une grosse bosse dans le dos. C'est assez visible en général. Oui. Puis le cas au milieu, qui est le méningocèle, celui-là, en général, il est visible aussi à la naissance. Pour ce qui est de l'hydrocéphalie, là, le diagnostic est parfois plus difficile à faire. Ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Quand l'enfant est petit, si c'est à la naissance, ça va peut-être se voir plus rapidement parce que la tête du bébé va grossir assez rapidement, beaucoup plus vite qu'un enfant normal. Donc ça va être un premier symptôme qui va mettre la puce à l'oreille plus rapidement que chez l'adulte, par exemple.
Et vous aviez dit en début d'entrevue qu'il fallait prendre de l'acide folique. Donc ça, c'est aussi, ça fait partie de votre campagne de prévention.
Oui. L'acide folique est connu depuis à peu près une vingtaine d'années pour ses vertus de prévention du spina bifida. Ce que j'ai pas dit tantôt, c'est qu'il y a 80% des personnes qui ont le spina bifida, donc congénital forcément, qui ont aussi l'hydrocéphalie. Donc en prévenant le spina bifida, on prévient aussi les cas d'hydrocéphalie associés au spina bifida. Pour que ça agisse, parce que la malformation de la colonne vertébrale se passe entre la troisième et la quatrième semaine de grossesse.
D'accord. Donc, et le médecin, en général, quand il prescrit de l'acide folique, il ne le dit pas, ça? Ou il le dit, il prescrit ça, les femmes enceintes pensent que c'est une vitamine, et puis, mais on dirait qu'il n'y a pas vraiment d'explication. Alors, c'est bien de vous entendre aujourd'hui.
Donc, pour tout le monde, en fait, ce qui est important, c'est de le prendre avant la conception, parce que 3 à 4 semaines de grossesse, c'est court. Hein. Ouais. La plupart du temps, les femmes ne savent même pas qu'elles sont enceintes encore. Donc, alors, il faut vraiment qu'elles le prennent avant la conception pour se faire des réserves d'acide folique. C'est pour ça que pour retenir facilement, on dit 3 mois avant, 3 mois après.
Bon, alors,
c'est le minimum.
Alors ça, c'est important. Si on veut plus d'informations et également si on veut faire un don donc, à votre organisme, donnez l'adresse en terminant, Madame Bowles.
Oui, vous pouvez nous joindre. On a un numéro 1-800 partout au Québec, 1-800-567-1788. Nos bureaux sont à Montréal. Et puis, vous pouvez nous joindre sur Twitter, sur Facebook. On a un blog où vous retrouverez toutes nos coordonnées. C'est asbhq.wordpress.com. asbhq.wordpress.com.
Merci beaucoup.
Là, vous aurez toutes les coordonnées. C'est moi qui vous remercie. Ça m'a fait plaisir.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Alors, notre question pour les questions de Sophie à l'approche des fêtes, à quel organisme donnez-vous ou donnerez-vous? Nous avons en studio Mme Diane Pilote. Elle est présidente du conseil d'administration de Vues et Voix. Et elle a été également lectrice et bénévole depuis 1985. Bonjour, Mme Pilote.
Bonjour, Sophie.
Alors, ça va bien?
Ça va très bien, merci.
Alors, pourquoi justement, si on repasse votre vie en arrière, 30 ans d'implication, comment vous êtes venue à faire de la lecture?
Dans la vie tous les jours, je suis opticienne. Donc, les problématiques visuel, les gens qui perdent la vue tranquillement, le glaucome, le diabète, ça m'a beaucoup interpellée dans mon travail.
Uh-huh.
Et de plus en plus, à l'époque, quand j'ai commencé, Vues et Voix ou la magnétothèque ne s'adressait pratiquement qu'aux aveugles, aux non-voyants. Maintenant, la clientèle, elle est extrêmement variée et je le vois dans mon bureau, les personnes qui sortent de la salle d'examen en pleurant parce qu'ils ont appris qu'ils ont une dégénérescence maculaire ou autre. C'est fréquent. On n'en avait jamais avant, mais c'est fréquent.
Mm-hmm.
Et bon, je suis une ambassadrice de Vues et Voix, donc je donne les cartes d'affaires au moins si on peut être utile à ces personnes-là qui ne peuvent plus lire.
Alors, un organisme, nous sommes dans la petite sœur, comme on dit. Nous sommes le volet radio. Mais pour, évidemment, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas Vues et Voix, qu'est-ce que ça fait? C'est quoi la mission de Vues et Voix?
Vues et Voix produit des livres adaptés. Donc, au départ, c'était pour les non-voyants. Le Vues et Voix existe depuis 38 ans, depuis 1976. La radio Canal M depuis 1986, donc 10 ans plus tard. Vues et Voix produit pour le moment, 800 livres par année. Ce sont des livres adaptés, donc ils sont tout à fait gratuits pour les gens qui ont une déficience visuelle ou une problématique de motricité ou les gens en trouble d'apprentissage aussi. Mm-hmm. Maintenant, notre clientèle s'ouvre beaucoup et ces gens-là peuvent obtenir nos livres gratuitement. Donc, c'est le volet de base de Vues et Voix qui s'appelait la magnétothèque, c'est l'enregistrement de ces livres audio.
Et ça veut dire combien de bénévoles sont ici à temps plein? Parce que ça, c'est comme une fourmilière ici. Là.
C'est une fourmilière. Les bénévoles sont ici en moyenne 2h30. Ils ont une plage horaire. On leur demande de la respecter si possible. Donc, ils viennent à chaque semaine donner leur vue, donner leur voix pour enregistrer pendant 2h30 un livre. Et ils reviennent de semaine après semaine. Il y en a 375 qui sont ici à chaque semaine pour...
Et beaucoup de gens qui sont membres de l'Union des artistes, des anciens animateurs.
Voilà, voilà, il y a beaucoup d'anciens animateurs. Il y a aussi des écrivains qui viennent maintenant pour enregistrer leurs propres livres. Donc, c'est toujours intéressant. Oui, c'est vraiment c'est la personne qui l'écrit qui peut vraiment transmettre le mieux son roman ou ses écritures.
Alors, Vues et Voix, c'est le nerf de la guerre, l'argent, vous le savez. Comment ça fonctionne? Parce que depuis 2012, il n'y a plus de subvention.
En 2012, nous avons perdu la subvention qui nous venait du ministère de la Culture. Donc, c'était 429 000 $. Donc, on l'avait depuis 17 ans, je crois, 16 ou 17 ans qu'on avait cette subvention. Maintenant, nous devons aller en appel d'offres. Et c'est là où un peu c'est problématique. Cette année, on a obtenu une production de 800 titres par la Grande Bibliothèque. Si on n'en avait eu que 300 à produire... on ne survivait pas. Donc, à 800, on atteint le minimum de fonctionnement pour la radio, pour les studios, pour la production des livres. Mais effectivement, on est présentement aussi, comme à chaque année, mais surtout au temps des fêtes, en campagne de financement.
Alors, comment on fait? On vous écoute. On aime ça. On aime Vues et Voix. On aime Canal M. Mais là, ça suffit pas juste d'aimer. Hein? Il faut mettre la main dans la poche.
Il faut mettre la main.
Et comment on fait, Madame Pilote, pour donner?
Vous pouvez, la façon la plus simple pour ceux qui ont accès à Internet, c'est d'aller sur le site de Canadon, canadon.org, et vous rentrez dans le moteur de recherche de Canadon, Vues et Voix, et vous pouvez directement faire un don qui nous sera remis. Ce qu'il y a d'intéressant présentement, c'est que c'est par le système PayPal, et PayPal remet jusqu'au 31, jusqu'à la fin décembre, remet 1% par don. Donc, il va revenir à Vues et Voix. Je pense que c'est un beau geste de leur part.
Alors, dites-moi exactement, en terminant, où s'en va mon don? À partir du moment où j'aurai mis, à la fin de l'émission, mon argent sur PayPal, qui aura 1%, ça va où exactement? Et ça va servir à quoi?
Présentement, nous sommes en renouvellement de l'équipement informatique. Ce sont des studios, des micros, des ordinateurs. Donc, il y a beaucoup de renouvellement qu'on doit faire. Il y a des équipements qui sont vieux. Donc, le gros des dons va aller sur le renouvellement de nos équipements informatiques.
Merci beaucoup, Madame Pilote. Et puis, vous continuez à lire?
Oui, je continue toujours à lire.
Vous aimez ça?
Oui.
Oui. On va juste redonner, avant que vous quittiez les studios, c'est très, très important, vous avez la boîte de dons. Madame Pilote, donnez-nous ce qu'on doit faire.
Oui, nous avons créé la boîte de dons. Ce sont des paniers de Noël pour des familles où il y a des aveugles. Cette année, nous nous sommes mis avec la Fondation des aveugles du Québec et l'Institut de Nazareth et Louis Braille. Donc, dans ces endroits-là, par exemple, ici, dans les studios de Vues et Voix, il y a une boîte, les gens peuvent donner des denrées non périssables et ça pourra permettre de donner des paniers de Noël aux familles dans le besoin qui vivent avec un handicap visuel.
Alors, on fait du bénévolat et en même temps, on amène des choses.
On amène des choses.
Ça fait des petits, comme on dit.
Voilà, exactement.
Merci.
Merci, Sophie.
Alors, on va tout de suite à notre prochaine invitée. Ça terminera l'émission, Madame Cécile Arbaud. Elle est directrice générale de l'organisme Dans la rue. Bonjour, Madame Arbaud.
Bonjour, Madame.
Vous allez bien?
Ça va très bien, merci.
Oui. Alors, vous avez des besoins immenses en ce moment et vous faites une campagne extrêmement intéressante. Je vais vous la laisser nous la présenter parce qu'il fait froid. Hein. Là où cette semaine, la neige a disparu, mais ça revient. Le froid arrive dès ce soir. Racontez-nous ce que vous allez faire.
Alors oui, comme vous dites, on a des besoins immenses. Dans la rue est un grand organisme qui existe depuis longtemps. Là, pour Mardi, je donne, on a décidé de se concentrer sur une chose bien concrète. En fait, on a besoin de d'accueillir ces jeunes et de pouvoir leur donner des vêtements chauds, etc. Mmh. Donc, on a pensé que les gens pourraient nous donner l'équivalent d'une paire de bas. Donc, c'est un petit don. Et puis on aime mieux avoir de l'argent parce que ça nous permet d'acheter les choses au moment où on en a besoin et de pas les stocker, les trier, etc. Et donc ce qu'on demande, c'est l'équivalent d'une paire de bas ou de plusieurs paires de bas et qui vont pouvoir permettre de réchauffer les pieds des jeunes. Et puis je dirais que ça va bien plus loin que ça parce que les jeunes, quand ils viennent chercher leurs bas, ils viennent aussi prendre un repas chez nous, ils se mettent en contact avec des intervenants et puis là, on peut commencer à travailler avec eux pour les aider aussi à devenir plus autonomes.
Oui, alors et comment ça se passe en ce moment? La campagne se lance quand? Est-ce que ça répond bien?
Alors, la campagne est en cours. On a une relance dans quelques jours. On lance officiellement la campagne auprès des médias la semaine prochaine. Ça répond très bien. Vous savez que cette année, on ouvre un building appartement avec 17 logements. Mmh. Donc, ce sont des besoins. On essaye à chaque fois de s'adapter aux besoins des jeunes et donc de procurer toujours des nouveaux services. Donc, ce sont des additions dans nos budgets. Oui, la campagne va bien, mais il faut toujours aller chercher de l'argent pour pouvoir répondre aux besoins des jeunes qui sont grandissants.
Justement, ces jeunes qui sont dans la rue, ils sont combien? Ce que vous voyez, ce que vous avez la chance, parce que je dis la chance de côtoyer, parce que souvent, c'est difficile de les faire rentrer. Vous en avez combien?
Alors effectivement, il y a de l'itinérance cachée qu'on ne voit pas, mais nous, on pense qu'on a déjà environ 1 millier de jeunes qui viennent chaque année nous rencontrer, ce qui est énorme à l'échelle de Montréal. Ces jeunes ont besoin de beaucoup de ressources qui vont, des vêtements chauds au repas, en passant par... on a des services beaucoup plus... qui vont vraiment chercher leur développement de vie. On a ils peuvent rencontrer des psychologues, ils peuvent aller à l'école. Et puis, tous les jours, on a des dizaines d'intervenants, en fait, qui les aident à passer au travers des moments difficiles et à se faire un plan de vie, à aller chercher leur carte, à prendre un rendez-vous chez le médecin, à prendre soin d'eux, puis à développer un peu leur plan de vie pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Alors, on procure aussi des emplois, du pré-emploi, des petits shifts de 2-3 heures de travail où ils pourront explorer leurs habiletés. Enfin, il y a toutes sortes de programmes. Il y a aussi l'abri de nuit, l'abri d'urgence. Bon, il y a toute une panoplie de programmes. Je ne crois pas qu'il y ait un domaine de la vie des jeunes qu'on laisse de côté, en fait, dans la rue. Ouais.
Vous vous occupez bien d'eux, on le sait, vous faites un travail magnifique. Céline Arbaud, donnez-nous l'adresse web en terminant. Et votre objectif, je pense que c'est 500 paires de bas.
Oui.
Donc, c'est ça votre objectif. Mais si on veut évidemment dépasser ça, il faut absolument que les gens qui nous écoutent aujourd'hui puissent donner. Mais on a besoin d'une adresse et peut-être d'un numéro de téléphone en terminant.
Alors, l'adresse pour la campagne très spécifique pour Mardi, je donne, c'est 500bas.com, donc 500bas.com, tout simple. Maintenant, si les gens veulent faire des dons moins ciblés ou plus importants, il y a le site web de Dans la rue.
Dans la rue.
danslarue.org.
Merci beaucoup.
Voilà.
Au revoir. Merci.
Merci. Au revoir.
Au revoir. Merci à mon équipe, Claudia Benoît, Jean-Sébastien Laliberté, Christiane Campagna. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye, mesdames, messieurs.